Chapitre 17e. Qui sera le coq du village? Cependant, un combat se livrait dans l'esprit de l'évêque. Les insinuations de M. Slope n'avaient point été perdues pour lui. Il sentait que s'il devait se révolter contre l'insupportable despotisme de sa femme, le moment était venu. S'il voulait être le maître dans son propre diocèse, il fallait se poser en maître sur le champ. Sans doute, il aurait mieux valu commencer le jour même de la consécration. Mais plus il attendrait, plus l'ingérence envahissante de Mrs. Proudie lui rendrait la chose malaisée. Et puis, l'assistance de M. Slope lui était aussi précieuse qu'inespérée. Jusque-là, il avait vu dans sa femme et dans son chapelain deux ennemis ligués contre lui, invincibles par leur union, et il avait même pensé à se débarrasser de M. Slope en lui donnant, loin de Barchester, un bénéfice avantageux. Et voici que l'un de ses deux adversaires passait dans son camp. Avec l'aide de M. Slope, que ne pourrait-il faire? Et il arpentait son petit cabinet, entrevoyant déjà le moment où il pourrait prendre possession à l'étage supérieur de la vaste pièce où son prédécesseur avait coutume de se tenir. Tandis que ses pensées se succédaient dans son esprit, on lui remit un billet de l'archidiacre Grantley, dans lequel celui-ci priait sa seigneurie de lui faire l'honneur de le recevoir le lendemain. « Sa seigneurie voudrait-elle bien indiquer une heure ?» La visite du docteur Grantley serait relative à la réinstallation de M. Harding dans la place de conservateur de l'hospice. Après avoir lu cette note, l'évêque fut informé qu'un domestique de l'archidiacre attendait une réponse. Ainsi, une occasion s'offrait sur le champ à l'évêque d'agir sous sa propre responsabilité. Il pensa néanmoins à son nouvel allié et sonna pour M. Slope. M. Slope n'était pas au palais. Prenant alors un grand parti, l'évêque répondit à l'archidiacre qu'il le recevrait à une heure qu'il lui indiquait. Après avoir vu le domestique sortir du palais avec la lettre, il commença à se demander quel serait le second acte de son gouvernement personnel. Le lendemain, il aurait à déclarer à l'archidiacre ou que M. Harding aurait la place ou qu'il ne l'aurait pas. Il sentait qu'honnêtement, il ne pouvait pas jeter Quiverful par-dessus bord sans en informer Mrs. Proudie, et il résolut d'aller braver la lionne dans son antre et de lui dire que les circonstances le forçaient à nommer M. Harding. Il lui promettrait, et ce serait une faveur spontanée, non un compromis, de donner en compensation à Quiverful le premier bénéfice lucratif dont il aurait la disposition. Si ce gâteau pouvait apposer la lionne, de quel succès glorieux ses premiers efforts seraient couronnés. Ce ne fut pourtant qu'après une certaine hésitation qu'il se trouva dans le boudoir de Mrs. Proudie. Il avait d'abord pensé à l'envoyer chercher, mais il n'était pas impossible qu'elle prît fort mal cet appel, et de plus, il se sentirait protégé contre l'orage qu'il pressentait si ses filles assistaient à l'entrevue. Il la trouva assise devant ses livres de comptes, mordillant son crayon, aux prises évidemment avec des difficultés pécuniaires, consternée du grand nombre et de l'importance des dépenses qu'exigeait le train de la maison. Ses filles étaient autour d'elle. Olivia lisait un roman. Augusta écrivait un billet à son ami de cœur, et Netta brodait des ornements qui devaient figurer au bas d'une jupe. Si l'évêque avait eu le dessus sur sa femme ainsi disposée, il pourrait se vanter d'être un homme et considérer son triomphe comme assuré désormais. « Ma chère, commença-t-il, si vous n'êtes pas occupée, je voudrais vous parler. » Mrs. Proudie posa son crayon, après avoir marqué le total des sommes de la page, leva les yeux et regarda son époux de son air le moins aimable. « Si vous êtes occupée, ce sera pour un autre moment. » continua-t-il, sentant son courage s'évanouir, maintenant qu'il se voyait sur le champ de bataille. « À propos de quoi, évêque ? » demanda-t-elle. « Eh bien, à propos de ces Quiverful. Mais je vois que vous êtes occupé, je vous le dirai plus tard. Qu'y a-t-il à propos des Quiverful ? Il est entendu qu'ils ont l'hospice, cela ne fait pas de doute, n'est-ce pas ? Mais, ma chère, il y a une difficulté. » « Une difficulté ? Quelle difficulté ? la place a été promise à M. Quiverful, et naturellement, il l'aura. Il a pris tous ses arrangements. Il a écrit pour avoir un vicaire à Puddingdale. Il a fait ses conventions avec un commissaire-priseur pour la vente de sa ferme, de ses chevaux et de ses vaches. Et il considère la position comme lui appartenant. Il va de soi qu'il doit l'avoir. Allons, évêque, sois ferme, et fais appel à toute ta virilité. Considère le prix de la victoire. Si tu désertes tes propres drapeaux à la première odeur de la poudre, dans quel allié, dans quel slope trouveras-tu désormais un allié sûr? Courage, évêque, courage. Un regard courroucé ne tue pas, des paroles aigres ne blessent pas le corps. Après tout, c'est toi qui portes le tablier. Si tu tiens bon pour toi-même, elle ne peut ni nommer des conservateurs d'hospices et des chapelains, ni conférer des bénéfices. Oh, le cœur, évêque, fais tête à l'ennemi. Voilà ce qu'une voix intérieure disait à l'évêque. Mais il y en avait aussi une autre qui lui parlait tout différemment. Souviens-toi, évêque, que c'est une femme. Et quelle femme! Tu ne le sais que trop. Ne vaudrait-il pas mieux, si la bataille doit s'engager, que tu prises position derrière ta table dans ton cabinet? Nulle part le coq ne se bat mieux que sur son propre fumier. Et tes filles sont là, les gages de ton amour. Est-il bien qu'elles te voient remporter la victoire sur leur mère? Est-il bien qu'elles te voient humiliée par une défaite possible? Et aussi, n'as-tu pas choisi cette occasion avec une étonnante maladresse? Toi qui t'étais illustré jusqu'ici par ton tact et ton habileté, auras-tu raison contre l'ennemi qui te dira « C'est toi, évêque, qui t'es engagé dans cette question de l'hospice, et tu te tournes contre ta femme parce qu'elle te demande d'accomplir ta promesse? N'es-tu plus un évêque chrétien? Et ta parole ne doit-elle pas être sacrée, quoi qu'il en puisse résulter? Retourne, évêque, à ton humble réduit, et diffère les hostilités jusqu'au moment où tu pourras combattre à force moins inégale. » Toutes ces pensées s'agitaient dans l'esprit de l'évêque, tandis que sa femme continuait ses additions. « 4 livres, 17 shillings, 7 deniers, dit-elle à voix basse. « Évidemment, M. Quiverful aura l'hospice, dit-elle à haute voix. « Voici ce que je voulais simplement vous faire observer, ma chère. M. Slope semble croire que si M. Harding n'est pas nommé, l'opinion publique sera contre nous, et que la presse s'emparera de l'affaire. « Monsieur Slope semble croire, » dit Mrs. Proudie de sa voix la plus dédaigneuse. « En quoi cela regarde-t-il, Monsieur Slope ?»« J'espère, my lord, que vous n'allez pas vous laisser gouverner par un chapelain. »«
Certainement non, ma chère. »«
Rien n'est moins probable, je vous l'assure. Mais Monsieur Slope peut nous être utile pour nous faire savoir d'où le vent souffle. Et je pensais réellement que si nous pouvions donner au Quiverful quelque autre position aussi avantageuse...
« Sottise !» dit Mrs. Proudie. « Il se passera des années avant que vous puissiez leur donner quelque chose qui leur convienne aussi bien. Et quant à la presse et au public, rappelez-vous qu'il y a deux façons d'exposer les choses. Si M. Harding est assez mal avisé pour raconter son histoire, nous raconterons la nôtre. On lui a offert la place, il l'a refusée. On l'a donnée à un autre et tout est dit. »
« Oui, je crois que vous avez raison, ma chère. » Et l'évêque opéra une sortie timide et descendit l'escalier, se demandant avec inquiétude comment il recevrait l'archidiacre le lendemain. Il ne se sentait pas bien en ce moment, et il considéra qu'il n'était pas impossible que le lendemain, il fût retenu dans sa chambre par une attaque bilieuse. Il était sujet à ce genre d'indisposition.
« Monsieur Slope, en vérité, c'est moi qui me charge de le sloper. » dit Mrs. Proudie avec indignation à sa progéniture toute oreille. « Je ne sais ce qui a tourné la tête à M. Slope. Il se croit, j'imagine, l'évêque de Barchester, parce que je l'ai pris par la main et que j'ai amené votre père à en faire son chapelain. »
« Il a toujours été un impudent, » dit Olivia. « Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, maman. » Olivia ne l'avait pas trouvé aussi impudent le jour où il avait proposé de faire d'elle Mrs. Slope.
« Vraiment, Olivia ?» « J'avais toujours pensé qu'il ne vous déplaisait pas, » dit Augusta, qui en ce moment était en délicatesse avec sa sœur. « Quant à moi, je n'ai jamais pu le souffrir. Je le trouve vulgaire des pieds à la tête. »«
Vous avez tort, » dit Mrs. Proudie. « Il n'est pas vulgaire du tout, et qui plus est, c'est un prédicateur éloquent. Il sait remuer les âmes, mais s'il reste ici, on lui apprendra à se tenir à sa place. »
Il a les plus horribles yeux que j'ai vus dans une tête humaine, dit Netta. Et puis il est d'une gloutonnerie dégoûtante. Avez-vous vu ce qu'il a mangé aujourd'hui de tarte aux groseilles ? De retour au palais, M. Slope comprit bientôt à l'attitude de l'évêque et apprit de lui que les ordres de Mrs. Proudie relativement à l'hospice devaient être obéis. Le docteur Proudie murmura quelques paroles, dans cette circonstance seulement, et désormais il n'accepterait d'avis de personne pour conférer les emplois. Mais le sort de M. Harding était décidé, et comme M. Slope ne désirait pas se mettre à dos et le prélat et sa femme, il vit que le parti le plus sage était de céder. Il était seul dans sa chambre ce même soir quand il entendit frapper légèrement à sa porte. Avant qu'il eût pu répondre, la porte s'ouvrit et Mrs. Proudie apparut. En un clin d'œil, il prit sa physionomie la plus souriante, mais ne vit pas le moindre sourire sur celle de sa visiteuse. Elle prit néanmoins la chaise qu'il lui offrait. « Monsieur Slope, dit-elle, je n'approuve pas du tout votre conduite de l'autre soir avec cette Italienne. On vous aurait pris pour son amoureux. »«
Dieu du ciel !» s'écria M. Slope, comme frappé d'horreur. « Mais c'est une femme mariée. »«
Je n'en sais pas tant, » dit Mrs. Proudie. « Du moins, elle se fait passer pour telle. Mais mariée ou non, vos attentions pour elle n'étaient pas convenables. Je ne puis croire que vous ayez voulu m'insulter dans mon propre salon, Monsieur Slope. » Mais je me dois à moi-même et à mes filles de vous dire que je désapprouve votre conduite. »
M. Slope ouvrit de toute la grandeur ses gros yeux saillants et leur donna une expression de surprise bien réussie.
« Et quoi, Mrs. Proudie? Je n'ai fait que lui apporter quelque chose à manger. Elle disait qu'elle avait faim. »
« Et vous lui avez fait une visite depuis ?» continua-t-elle, en fixant sur lui un regard sévère de policier sur sa victime. Au moment où il se fait connaître.
M. Slope se demanda s'il serait prudent de répondre à ce dragon femelle, qu'il visiterait qui lui plairait, et qu'il agirait à sa guise, mais il se rappela que sa situation à Bartshurston n'était pas encore bien assurée, et qu'il serait plus sage de l'apaiser.
« Je me suis en effet présenté depuis chez le docteur Stanhope et j'ai vu Mme Neroni. »«
Oui, et vous l'avez vue seule. »«
Sans doute, je l'ai vue seule, mais c'est parce qu'il n'y avait qu'elle dans le salon. »
« Assurément, ce n'est point ma faute si le reste de la famille n'était pas là. »«
Peut-être que non, mais je vous assure, Monsieur Slope, que vous tomberez bien bas dans mon estime si vous vous laissez prendre dans les filets de cette femme. Je connais mieux que vous les femmes, Monsieur Slope, et je puis vous affirmer que cette signora, ainsi qu'elle s'appelle elle-même, n'est pas une compagnie convenable pour un jeune prêtre strictement attaché à ses devoirs. »
Combien M. Slope aurait eu de plaisir à lui répondre par un éclat de rire, mais il n'osa pas.
« Je puis vous assurer, Mrs. Proudie, dit-il simplement, que cette femme n'est rien pour moi. »
« C'est bien, je l'espère, M. Slope, mais j'ai considéré comme un devoir de vous mettre sur vos gardes. Et maintenant il y a autre chose au sujet de laquelle je crois devoir vous parler. Il s'agit de votre conduite à l'égard de l'évêque. »
« Ma conduite à l'égard de l'évêque ? »
dit-il avec une surprise réelle cette fois.
« Oui, M. Slope, votre conduite à l'égard de l'évêque. Elle n'est pas à beaucoup près ce que je voudrais qu'elle fût. »
« L'évêque vous a-t-il dit quelque chose, Mrs. Proudie ?»«
Non, il ne m'a rien dit. Il croit sans doute que c'est plutôt à moi à vous faire de semblables observations, puisque c'est moi qui vous ai fait connaître à lui. Le fait est, M. Slope, que vous avez quelque penchant à vous arroger trop de pouvoir. »
M. Slope eut une légère rougeur et comprima, non sans peine, une bouffée de colère. Il écouta silencieusement les paroles de Mrs. Proudie.
« C'est le défaut de beaucoup de jeunes gens dans votre position. L'évêque le comprend et vous le pardonne quant à présent. L'expérience vous apprendra bientôt dans quelle mesure on réclame vos services. Si vous voulez recevoir un avis, vous éviterez d'exercer sur l'évêque une influence qui serait indiscrète quand il s'agira de nomination. » Si sa seigneurie veut un conseil, elle sait où le prendre. »
Et après avoir défilé un chapelet de plates représentations relativement à la conduite que devait tenir ou ne pas tenir un jeune prêtre célibataire, Mrs. Proudie se retira, laissant le chapelain à ses pensées. La conclusion de M. Slope fut qu'il n'y avait point de place dans le diocèse pour l'activité de Mrs. Proudie en même temps que pour la sienne, et qu'il n'avait pas de temps à perdre pour préparer et assurer son propre triomphe.